patriarca, patriarca, patriarca.
La parole est pleine pour les miens, pour que le beat tienne, le micro en main, que mon message parvienne.
C'est la révolte des femmes de ménage, des camionneuses et des petites filles bien sages.
Whatever Lola wants, Lola gets.
Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste.
I wanna be a butch, I wanna be a butch. Cause butchs are strong and sensitive. Butchs are sexy and wonderful, powerful and brave and queer and straight eyes and horns.
Et on se prend la main. Et on se prend la main. Une fille au masculin. Un garçon au
l'émission pour
déranger.
Une émission féministe
les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois
de 18h30
à 20h
sur Radio Kaleidoscope
97 FM.
1h30 de féminisme pur.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes bien sur Dégenré, l'émission féministe sur Radio Kaleidoscope. Ce soir, on va vous parler des enjeux féministes dans la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, donc à côté de Nantes, hein, ce qu'on appelle aussi la ZAD, zone à défendre. On avait déjà consacré une émission à cette lutte pendant une tournée d'infos qui avait eu lieu fin 2010. Là, on va, du coup, vous pouvez aussi réécouter cette émission qui pose un peu les enjeux, mais aussi l'historique de la lutte à ce moment-là. Là, du coup, depuis, les choses ont aussi pas mal évolué. Dans cette émission, on va revenir plus directement sur la prise en compte des questions de sexisme, d'homophobie dans cette lutte, et aussi de la nécessité d'une visibilité et de réaction féministe. Sachant que cette nécessité, elle s'est posée de manière encore plus pressante par rapport à la vague d'expulsion et de répression qu'il y a eu cet automne, mais qui a été aussi suivie d'une forte mobilisation, de plein de réoccupations et de plein de trucs chouettes, mais en même temps des besoins aussi de poser ou reposer des bases féministes aussi dans ce mouvement. Parce que cette lutte contre l'aéroport, elle se veut aussi une lutte globale hein, contre l'aéroport et son monde. Du coup, le monde qui va avec, ça veut dire d'être aussi dans une perspective anticapitaliste, mais de prendre aussi en compte les différents rapports d'oppression dans cette société. Donc que ce soit des rapports d'oppression racistes, néocolonialistes, validistes, mais aussi de prendre en compte l'hétéropatriarcat. Et que ça, c'est pas juste une lutte par rapport à l'extérieur, c'est aussi des questions, ces rapports de domination qui se posent à l'intérieur des luttes et à l'intérieur des mouvements militants. Et que ben, à un moment, en fait, on ne peut pas lutter et espérer changer des choses si on ne réfléchit pas aussi nous-mêmes à ces rapports de domination à l'intérieur, en fait, de nos luttes. Alors, par rapport à cette émission, ça va surtout être basé à partir, en fait, d'interviews, d'enregistrements qu'on a réalisés cet hiver, parce que du 27 février au 4 mars, il y avait une semaine d'activité qui était organisée par un collectif Meuf Gwyn Trans, La Châtaigne, qui est un peu redevenu là un des lieux central sur la ZAD après la vague d'expulsion. Au niveau de cette organisation, ben, ça regroupait à la fois des habitantes de la ZAD, mais aussi des féministes d'ailleurs qui soit étaient déjà venues plusieurs fois sur cette lutte, soit venaient pour la première fois, mais du coup qui avaient envie de participer à cette semaine-là. Et on a donc fait différents enregistrements de débats, des interviews, dont vous pourrez entendre une partie ce soir. Et pour commencer, on va recontextualiser en revenant sur un historique de la lutte.
Alors, la plupart des sons qui ont été pris pendant la présentation de l'historique de la lutte n'a malheureusement pas pu arriver jusqu'ici. Le son était trop mauvais. Alors, je vais reprendre presque mot pour mot ce qui a été dit par les personnes qui présentaient l'historique de la lutte. Donc je vais faire une présentation de la lutte contre l'aéroport et ce dans quoi elle s'inscrit, c'est-à-dire une lutte contre l'aménagement du territoire. La lutte contre l'aéroport, elle réunit tout un tas de composantes et de perspectives politiques diverses. Et on est sensible à ce sujet de lutte parce que c'est une lutte contre l'agrandissement des métropoles et contre l'aménagement du territoire. Alors, dans l'ère post-industrielle, les métropoles, elles sont de plus en plus en concurrence. Elles cherchent à devenir des, comme on dit, des pôles attractifs au niveau national et international. Et depuis les années 50, on voit apparaître la notion de gestion du territoire à un niveau étatique. C'est-à-dire que l'État va mettre son nez dans l'aménagement de toutes les métropoles ou de ce qui est appelé à devenir une métropole. Par exemple, dans les années 50, on entendait beaucoup « si jamais Paris reste la seule capitale, les autres provinces elles vont s'appauvrir et l'État français va péricliter ». Et donc, depuis les années 50, les provinces deviennent des centres de décision, des centres de recherche, des centres de conception et de services. Par exemple, Grenoble, c'est un centre de recherche. Et on assiste à une spécialisation des espaces dans la ville. Chaque espace a sa fonction. Un espace bien délimité pour habiter, un autre pour travailler, un autre pour consommer. Tout est compartimenté et délimité. Et donc, lutter contre les métropoles et contre l'aménagement du territoire, c'est lutter contre une mainmise sur la manière dont on doit vivre, parce que tout est déjà pensé à notre place, tout est délimité autour de nous et cadré. Et aussi pour lutter contre l'appauvrissement des quartiers, où dans les quartiers, il y a beaucoup moins de vie, parce que la vie, elle se dissout dans la ville. Entre chaque action, il y a besoin d'utiliser des transports en commun, et ce qui fait qu'on met de côté la vie publique, les liens entre les habitants, etc. On peut aussi avoir de bonnes raisons de s'inquiéter parce qu'on voit une volonté très forte des politiques urbaines de s'accroître, de grandir, de conquérir toujours plus de territoires. Et on peut voir ça à travers la communication de la métropole de Nantes, entre autres. La métropole de Nantes qui communique beaucoup autour du thème de la culture. Et c'est une manière de se rendre attractive pour les cadres dynamiques et les classes dites créatives. Quand on dit créative, on parle de création d'emplois et non pas d'un esprit créatif ou quoi que ce soit. Et aussi, vous pouvez le voir aussi, par exemple, avec la métropole de Grenoble, de beaucoup communiquer autour du thème de la culture. Et ça rend possible beaucoup de choses, c'est-à-dire de faire exister un territoire comme par exemple Nantes-Saint-Nazaire, qui sont deux villes distantes de 50 km et qui font des expositions communes avec des œuvres d'art qui s'étendent entre Nantes et Saint-Nazaire. Et bien sûr, on communique aussi beaucoup avec l'écologie. Et le terme d'écocité qui a fait son apparition récemment. Alors des écocités, il y en a une douzaine en France. Et il y a l'écocité de Nantes-Saint-Nazaire, où tout est pensé, c'est-à-dire on garde certains espaces verts pour avoir un minimum d'oxygène, mais en contrepartie, chaque année, il y a des hectares et des hectares de terres agricoles qui disparaissent. Et donc, il y a beaucoup de gens qui luttent contre l'aéroport pour cette raison, pour lutter contre la disparition des terres agricoles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une métropole ? Pour avoir une belle métropole, il faut un beau centre-ville. Et pour avoir un beau centre-ville, il faut en chasser les pauvres. Les quartiers populaires de Nantes sont nettoyés grâce à la logique de la spéculation immobilière. On peut voir ça aussi à Marseille, par exemple, en ce moment. On peut aussi rendre son histoire lisible pour que les nouveaux arrivants s'y sentent bien, assez bien pour qu'ensuite ils aillent s'installer dans la campagne environnante et que cette campagne environnante, petit à petit, elle change de mentalité. Par exemple, des citadins qui sont nouvellement arrivés dans la campagne autour de Nantes ne vont pas questionner les nouvelles politiques d'aménagement qui sont, par exemple, d'installer un supermarché. Et donc, ces néo-ruraux ne vont pas du tout lutter contre ces politiques-là et au contraire, accepter bras ouverts les nouveaux équipements, les nouveaux réseaux routiers, les supermarchés, tout ça. Et par exemple, ce sont aussi ces personnes-là qui vont remettre en question la présence de personnes roms ou de personnes vivant sur des camps dans les villes. Donc ça participe vraiment de l'agrandissement du territoire, de la métropole et aussi de la diffusion d'une certaine mentalité. Donc le projet de l'aéroport, c'est un projet capitaliste qui a des visées capitalistes. Et on peut le voir à travers ces histoires de spéculation immobilière, par exemple. On communique beaucoup à travers... on dit beaucoup que l'ancien aéroport causerait beaucoup de nuisances sur la ville de Nantes. Et en fait, c'est surtout... ça permet aux agences immobilières de pouvoir spéculer sur ce territoire parce que pour l'instant, on ne peut pas construire plus sur l'île de Nantes. Elle est considérée comme une zone de nuisance avec le bruit de l'ancien aéroport, enfin de l'aéroport actuel, quoi. Et en fait, ça permettrait à de nouvelles infrastructures de se construire là. Et ça permettrait aussi la création de plein de nouvelles infrastructures de transport, notamment pour relier le nouvel aéroport, un tram-train, un périphérique, et qui donnerait envie aux investisseurs de s'installer avec vue sur la mer. Donc, le projet de l'aéroport, il est né à la fin des années 60. Et les habitants ont appris la nouvelle dans le journal. Ils n'ont pas été consultés sur l'implantation de ce nouvel aéroport. Et c'était, comme vous le savez, un territoire agricole. Il y a une asso qui a été créée, une asso qui s'appelle l'ADECA, qui s'appelle l'Association des exploitants agricoles. Et pour rappeler le contexte, dans les années 70, il y avait beaucoup de mouvements sociaux partout en France, surtout celui des paysans travailleurs. Et il y avait des liens très très forts entre les paysans et les ouvriers, ainsi que les étudiants. Il y avait
étudiantes et ouvrières et paysannes.
C'est ça. Et il y avait donc une conscience très forte de la lutte des classes. Les terres, elles étaient considérées comme un outil de travail à défendre. Les ouvriers venaient soutenir les luttes des agriculteurs et vice-versa. Dans les années 70, il y a beaucoup d'agriculteurs qui quittent la campagne pour la ville et l'ADECA, elle soutient l'installation de nouveaux paysans qui viennent repeupler la campagne, monter des projets agricoles. Et il y avait aussi beaucoup de liens avec d'autres luttes comme celle du Larzac ou celle de Poglof, qui sont des luttes qui ont été des victoires et qui donc pouvaient vraiment motiver les gens à lutter contre cet aéroport. Dans les années 70, les communes autour de Nantes, elles ont voté pour le projet du nouvel aéroport parce qu'il était considéré comme un projet d'avenir. C'était un aéroport qui était censé accueillir le Concorde. Alors on sait maintenant que le Concorde n'existe plus, mais c'était vraiment une super pub pour les communes en tout cas. Et en 74, la zone, elle a été déclarée zone d'aménagement différé. La ZAD donc, et ça donne le droit au gouvernement régional d'acheter des terres de manière prioritaire. Ça s'appelle le droit de préemption. Dans les années 80, le projet il a été un peu oublié. Beaucoup de monde a pensé que la lutte avait payé, le Concorde s'est crashé, c'était la crise pétrolière, alors du coup le projet a été mis plus ou moins aux oubliettes, mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que le Conseil Général continuait d'acheter des terres et dans les années 2000, il y a une grande partie de la zone qui a été accaparée par le Conseil Régional. Dans les années 2000, c'est le moment où le projet est ressorti et cette fois-ci, la communication, elle se faisait surtout avec la pub sur le fait que ce serait un grand aéroport international qui permettrait de désaturer l'aéroport actuel. Il y avait le terme de sécurité qui était beaucoup employé, comme quoi l'aéroport actuel qui est à l'intérieur de Nantes, ce serait un défaut de sécurité pour les habitants. Et aussi, bien sûr, comme je le disais, l'écologie. Un aéroport HQE, haute qualité environnementale, super écolo, et ce qui en fait un super argument de vente pour la plupart des investisseurs. Et donc le contexte des années 2000, il est très différent des années 70. Il n'y a plus le même mouvement des paysans travailleurs. L'association de l'ADK, elle s'est réactivée, mais l'énergie, elle n'était plus la même. Les agriculteurs ont, pour une partie d'entre eux, changé de position. Ils sont parfois prêts à négocier autour du projet. Et la population qui s'est sentie concernée quand même pour lutter contre ce projet d'aéroport, elle a créé une association qui s'appelle l'ACIPA. C'est une association qui regroupe des étudiants, des étudiantes, des habitantes... un peu plus large, quoi, que simplement des paysans, et qui ont demandé un débat public pour questionner avec les citoyens la présence de cet aéroport. Les débats publics ont effectivement eu lieu, et malgré une massive mobilisation contre l'aéroport, les conclusions du débat officiel étaient encore et toujours « il faut un deuxième aéroport et cet aéroport se construira ». Et ça a provoqué, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup de désillusions des militants et des militantes à propos des croyances sur un débat public officiel qui pourrait avoir un impact sur des décisions. Et un autre axe de cette association, la CIPA, c'est de diffuser des informations sur le projet, de faire du lobby sur les élus avec la création du collectif des élus qui doutent de la pertinence du projet. Et aussi le soutien aux propriétaires qui ne veulent pas vendre leurs terres en leur proposant une aide juridique, des avocats, etc. Enfin, plus proche de nous, entre 2006 et 2008, il y a eu des enquêtes d'utilité publique. Et après cela, il y a eu la diffusion d'un décret qui autorise le gouvernement à exproprier ceux qui ne veulent pas vendre leurs terres. En 2009, c'est le début des travaux. Les premières études, les premiers forages et aussi les premières actions directes par les habitants de la zone et les sympathisants avec de la destruction du matériel, la dispersion de carottes de terre, l'occupation des bureaux. Et c'est à ce moment-là qu'on voit la diversification des moyens de lutte, non plus que des moyens de lutte officiels, mais aussi des actions directes contre ce projet. Et en janvier 2011, c'est Vinci qui a gagné le contrat pour construire l'aéroport, mais aussi pour gérer cet aéroport une fois construit pendant 55 ans, et aussi la gestion de l'aéroport existant. Et à ce moment-là, à partir de 2011, la mobilisation contre l'aéroport, elle devient aussi celle contre Vinci. Voilà, on va écouter un morceau de Robotnichka qui s'appelle « L'avion ». Et ensuite, on écoutera la troisième partie de cette partie.
Je suis un avion en réaction, je vis mes commandes du mal. Je suis un avion et pas un ballon. Oui, 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 oui. Je vole les mégalopoles en mangeant du pétrole. Je parfume l'atmosphère pour les instants. Je suis le TGV des cieux, l'archange technologie au fait audacieux. Je suis un avion en réaction, je suis le cœur où tu meurs. Je suis un avion et pas un ballon. Oui, 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 oui. Je serai une fusée supersonique. Je pourrais faire la nique à tous les Spoutniks. Je transporterai dans l'espace les passagers pressés des premières
Je voulais démarrer pour parler de 2007, quand Le Rosier, c'est la première maison de la zone qui a été occupée grâce à des personnes, des habitants du coin qui ont invité des personnes à venir s'installer. C'est une maison qui a duré 5 ans, qui a été détruite fin novembre dernier. Et avec Le Rosier, ça commence l'aventure des occupations qui a été relancée par les habitants qui résistent. Ils sont un groupe de personnes qui ne se trouvaient pas complètement en accord avec la CIPA et qui décident du coup de se séparer et qui deviennent les habitants qui résistent, qui lancent un appel en 2008, il me semble, pour que les gens viennent s'installer sous la zone parce qu'il y avait pas mal de maisons qui se vidaient, qui étaient rachetées par le Conseil Général. Il y avait des terres aussi qui se vidaient mais qui continuaient d'être exploitées. Et surtout, ce qui est inquiétant, c'est du coup le fait que le Conseil Général, pour construire son aéroport, a essayé de vider, que la zone ça devienne un désert. Et du coup, la réaction, ça a été non, un territoire se défend avec les gens qui y vivent. Et du coup, d'où l'appel qui a amené à de nouvelles maisons à être occupées, et des nouvelles personnes qui viennent s'installer, des cabanes qui sont construites. Et du coup, à partir de 2008, il y a pas mal de vagues d'occupation. On a un peu l'impression qu'elles sont liées à des moments qui étaient organisés sous la zone. Par exemple, il y a eu le camp climat en 2009. Il y a eu plusieurs semaines de partage de savoir, d'ateliers pour permettre aux personnes de venir sous la zone, de découvrir la vie qu'il y avait ici, de s'installer pour continuer cette lutte. Et il y a eu un village Nogé dans l'été 2011. Et en même temps, il y avait des gros rassemblements qui étaient organisés par la CIPA l'été et qui amenaient vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ça existe encore, il y a tous les étés. Je ne sais pas, de l'ordre de 75 000 personnes, un truc comme ça, si je ne me trompe pas, dans un week-end. Et du coup, ça permettait que la lutte soit connue, surtout de faire venir des gens sous la zone et de voir qu'est-ce qui s'est passé ici.
On nous a dit de la fermer, on s'est mis à chanter. On sait que ça va chauffer, on s'en fout, on est prête.
Les événements que je considère qui sont assez importants pour, dans le cadre des occupations, il y a aussi une manif. En 2011, la manif d'occupation qui a donné naissance au jardin collectif du Sabot, qui n'existe plus. Et l'idée, c'était de faire une manif participative où les gens amènent leurs outils. Où il y a eu environ 1000 personnes qui ont marché de l'Opaclé à la zone où il y avait ce jardin, avec des fourches, des pelles, avec tout le matos nécessaire pour jardiner, et qui ont occupé une friche qui appartient à Géo, ou à Aéroport Grand Ouest, et qui, du coup, ils ont créé ces jardins collectifs. C'est aussi une période qui a vu d'autres actions, d'autres types d'actions, empêcher chaque fois qu'il y avait Biotop ou d'autres entreprises, on peut dire, qui venaient travailler pour faire avancer le projet d'aéroport. Il y a eu pas mal d'actions directes, du coup, sur le terrain, pour les empêcher soit d'accéder aux parcelles où ils devaient faire les forages, les fouilles, soit de prélever de la terre ou d'autres échantillons. Et du coup, toutes ces vagues d'occupation ont créé celle qu'on appelle la ZAD, en reprenant zone d'aménagement différé qui devient zone à défendre. Et les personnes qui vivaient sur la zone, qui habitaient sur la zone à ce moment-là, venaient de luttes différentes qui menaient dans d'autres villes, dans d'autres endroits, amenaient ces luttes ici pour les faire vivre ici. Et c'est des gens qui venaient de milieux complètement différents, de pays différents, avec une vision du monde complètement différente, des visions politiques différentes. Il y avait des motivations plutôt liées à l'écologie, à la nature, à sauver la planète. Il y avait d'autres personnes qui étaient plus motivées par lutter contre l'autorité, les institutions, l'État. Et du coup, la ZAD, c'est devenu un peu l'endroit où toutes ces luttes, elles sont fusionnées et où toutes ces personnes complètement différentes ont appris à s'organiser ensemble, aller au-delà de ces différences-là et trouver un terrain commun. Pour moi, l'expression qui résume un peu était contre l'aéroport et son monde, ou contre l'aéroport et le monde qui va avec. Parce que l'aéroport, c'est... Oui, on lutte contre l'aéroport, mais pas que contre ça. Aussi contre le monde que cet aéroport représente, du coup, tout le discours sur l'aménagement et ce qu'il y a derrière.
J'étais tranquille, j'étais peinard, je cultivais mon potager. D'un coup j'ai vu passer des cars, blindés de policiers surarmés. Ils ont rampé dans mes courgettes, ils m'ont regardé d'un air bête.
T'es sur la terre de Vinci, dégage d'ici.
Ils avaient beau se la péter, on était bien barricadés. Leurs hélicos, leurs lacrymos, on trouvait ça très rigolo. On se croyait dans un film d'action, moi j'ai dit laisse béton. Ils ont voulu nous taper, on a chouré leur matraque. Là ils ont paniqué, on a gardé nos baraques.
Dans les dates importantes des dernières années, il y a aussi une grosse manif qui a été organisée le 24 mars 2012, qui a vu entre 6 000 et 8 000 personnes qui ont envahi Nantes pour amener la campagne à la ville. C'est un peu la stratégie d'amener les problématiques qu'il y a ici à la ville. Et du coup, c'était une grosse manif avec des tracteurs, des gens qui plantent des arbres dans la ville, pour visibiliser ce combat-là, qu'il n'est pas dans un coin de la Bretagne, pour que les gens ils oublient pas. Quoi.
J'étais tranquille, j'étais peinard à saboter cette société. Quand deux, trois débiles en costard ont décidé d'aménager pour contrôler la vie de chacun, ben s'ils ne reculent devant rien.
Rien à foutre de tous ces gens, faut faire de l'argent. bétonner des terres agricoles et faire une grande mégalopole. Fais confiance à Jean-Marc Ayrault, il est complètement mégalo. Ils veulent imposer leurs avions, moi j'ai dit laisse béton. Et à chaque forage, on fait un sabotage. On les emmerde sans arrêt, ils abandonnent leur projet.
Il y a eu des procédures, des procès liés aux expulsions des maisons qui ont duré assez longtemps à cause des reports et différentes pièces des dossiers qui manquaient. Mais qui, à un moment, les maisons qui étaient squattées se sont trouvées expulsables. Et du coup, les expulsions ont eu lieu. Ils ont commencé la première vague d'expulsion, qu'on a vu, a commencé le 16 octobre 2012, et qui a duré un mois. Et qui a mené à la destruction de pas mal de lieux d'habitation, des maisons occupées, des cabanes, des jardins. À la suite de cette vague, il y a eu une grosse manifestation de l'occupation, entre 35 000 et 40 000 personnes sur la zone, dans une manif festive, on peut dire, oui, c'était festive. Avec des planches, des clous, des marteaux et tout pour venir construire là où on est, du coup, la châtaigne. Passer un message comme quoi voilà, ils nous expulsent et on revient. Et du coup, l'esprit des derniers mois, c'était un peu ça en fait. Les gens, ils n'ont pas arrêté de construire un seul moment. Il y a des cabanes qui poussent de partout.
La morale de cette belle histoire, c'est que pour détruire le capital, pas besoin qu'on attende devant soi pour qu'ils tombent de leur piédestal. Quand à la fin d'une chanson, ils se retrouvent à poil et sans flic, pas besoin d'imagination pour trouver la chute magnifique.
Vous êtes bien sur Dégenré, l'émission pour déranger sur Radio Kaléidoscope. Là, on vient d'écouter une prise de son sur les occupations de la zone à défendre, qui a été faite pendant un débat sur l'historique de la lutte, qui a été prise pendant la semaine qui a été organisée par le groupe Meuf Gwyn Trans à la ZAD cet hiver.
Et c'était entrecoupé d'un petit détournement de Renault, laisse béton. Et maintenant, on va plus parler directement du sujet des questions féministes dans cette lutte. Et du coup, on a interviewé des meufs qui font partie du collectif sur la ZAD féministe Meuf Gwyn Trans qui s'est créé. Et dans cette partie-là, on va plus revenir justement sur les besoins à un moment d'un groupe féministe non mixte plus formel et aussi les réactions que ça a suscité.
J'ai l'impression que le groupe non-mix s'est passé en plusieurs étapes là et qu'il y a eu comme avant les expulsions par exemple, j'ai l'impression que les thématiques de féminisme et tout ça, ça existait en relation interpersonnelle un peu, mais il n'y avait pas de groupe qui portait un truc féministe sur la ZAD quoi. Et il y a eu des rencontres qui se sont faites avec d'autres nanas de la ZAD que moi je connaissais pas par exemple, autour de questions de violence de mecs qui tapaient des nanas, voilà. Et que du coup, le fait de se rencontrer sur cette thématique-là, ça a fait qu'il y a eu des réunions qui ont commencé à s'organiser, et puis on a invité plus de monde, et puis on était du coup au moins une quinzaine, je sais pas. Et après les expulsions sont arrivées, alors du coup, ça a tout chamboulé, comme tout le reste des trucs d'organisation, quoi. Et surtout que là, en plus, c'était vraiment un truc très frais, où il y avait juste une ou deux réunions un peu formelles qui s'étaient passées, quoi. Et du coup, pendant un mois, ça a été oublié, et je crois que c'est vraiment la manif du 17, où c'est ressorti beaucoup en AG le lendemain et tout ça, qu'il y a plein de nanas qui se sont trouvées dans des situations qu'on ne connaissait pas beaucoup sur la ZAD avant, même si, comme partout ailleurs, il y avait déjà du sexisme, mais de ne pas pouvoir participer à un chantier sans se faire enlever les outils des mains. Le concert a été assez horrible, là, de plein de propos sexistes et homophobes, avec des gens qui essayent d'intervenir pour dire que c'est dégueulasse, et puis les autres qui disent « Ah, tu nous emmerdes », machin. Et voilà, et du coup ça fait une réunion, on était pas mal nombreuses, mais avec pas mal de gens d'un peu partout, quoi. On a commencé à, comme ça, à créer un groupe un peu fixe, là, sur la ZAD. Et
ouais, aussi, peut-être aussi dire que du coup, on a eu, je sais pas, là, on a eu besoin à un moment donné de définir un peu des bases politiques, en fait, à ce groupe-là. Et puis aussi qu'il y a eu des réunions, en fait, des réunions non mixtes, là, qui se sont mal passées. Et où on s'est dit qu'on avait aussi besoin d'avoir un lieu un peu plus, je sais pas là, tranquille pour s'organiser. Et au début, on faisait les réunions à la salle de la Châtaigne. En fait, les réactions, c'était juste qu'il y avait des gens qui rentraient tout le temps, qu'on a dû à plein de moments, je sais pas là, fermer les portes, se barricader à l'intérieur, enfin se barricader. Tu vois quoi, bloquer la poignée, ou mettre des panneaux. Et en fait, que quand même, ça suffisait pas quoi, que... Ouais, il y avait des gens qui rentraient, qui ressortaient en disant « Ah, vous savez pas ce qu'elles sont en train de dire à l'intérieur. »
Pas mal de foutage de gueule, quoi.
Ouais.
Et aussi, je sais pas si moi je peux dissocier la dynamique... Enfin, les réactions à la dynamique antisexiste en général, ça veut dire y compris portée par des gars, parce que du coup, y a, une fois que le groupe non mixte a commencé à s'organiser un peu, il y a eu un groupe non mixte mec aussi qui s'est créé, et ce groupe non mixte là était à l'origine de réunions mixtes sur antisexistes, quoi. Genre centré sur la ZAD et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cadre là et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des trucs qui ont bien pété dans ces réunions mixtes là. Et la première, quand même, la salle était vraiment pleine, quoi, la salle de la Châtaigne. Du coup, il devait y avoir, je sais pas, peut-être plus de, ouais, 100 personnes ou ouais, plus, quoi.
100 personnes.
Et la discussion, elle a duré pendant 3 heures ou 4 heures. Enfin, vraiment, c'était long et il y avait toujours plein de monde à la fin. Du coup, il y avait quand même de l'intérêt et l'envie de discuter. Et c'était pas super hostile, à part quelques trucs, voilà.
Ça, c'était chiant. Quoi l'intitulé de la réunion, le but
Sexisme et homophobie sur la ZAD.
Ça, c'était le truc de base, mais en fait, ça s'est transformé en truc vraiment pédagogique et de dire bon, ok, c'est quoi le sexisme ? Et que les gens, ils essayent de définir un peu c'est quoi le sexisme. Et je crois que c'était surtout la deuxième réunion qui était plus censée être centrée sur qu'est-ce qu'on peut faire ici sur la ZAD, enfin, ou comment. Ah oui, la première réunion, c'était qu'est-ce que c'est le sexisme et comment il s'exprime sur la ZAD, en fait, un truc comme ça.
Mais du coup, ça a pas mal tourné aussi autour de débats généraux, là, où il y avait plein de personnes qui posaient des questions sur la complémentarité entre les hommes et les femmes et tout. Enfin, et voilà, et du coup, il y a eu tout un travail là, ou je sais pas, un travail, en tout cas un moment où bah, c'était important d'expliquer pour nous, en fait, ce que c'était qu'une lutte antisexiste et que ça avait pas à voir avec une pseudo-complémentarité là.
Il y avait aussi des réactions par rapport à des discussions en réunion de peut-être utiliser le mot féministe, c'est un peu fort et tout, ça va faire peur aux gens, tout ça. Et du coup, on s'est dit que plutôt on avait envie de revendiquer ce mot-là, et aussi comme faisant partie d'une histoire, en fait, que ça sort pas de nulle part et tout ça. Et ouais, je crois que c'était surtout ça, en fait. Et puis sur ce truc d'être vénère, là, de dire bah oui, en fait, on va pas toujours parler gentiment, on va pas toujours. Et puis c'est comme ça, en fait. Et si ça, c'est un acquis de base, et ben ça fait que ça pose quand même vachement moins de questions le jour où tu dois écrire un texte ensemble. À un moment, du coup, on a voulu écrire cette espèce d'appel à venir aux réunions, aux meufs Green Trans. En fait, c'était pas mal en réaction à des problèmes qu'on avait eu dans des réunions. Et que nous, on avait quand même envie, je crois, que le groupe soit assez ouvert et que des gens de passage aussi puissent venir, que ce soit pas forcément que des zadistes qui soient là tout le temps et tout. Mais on a fait quelques réunions à avoir l'impression de tourner en rond sur les mêmes débats et à pas pouvoir avancer. Parce que, bah, par exemple, il y en avait qui venaient... et qui trouvaient qu'une affiche qu'on avait faite pour visibiliser, je sais pas, des façons de se comporter derrière les barricades, et aussi une répartition genre et des rôles dans cette lutte-là, sur la ZAD, entre les équipes médicales, les équipes légales et tout ça, et qui sont presque que des nanas, et puis voilà, les barricades ou je sais pas quoi, qui sont des mecs. Bref, du coup, il y avait une affiche pour dire quand même que c'était pas super chouette que des gens disent « on va violer ta femme aux flics ». Et apparemment, elle était agressive du coup de certaines qui venaient aux réunions. Et du coup, on a fait des, ouais, on a fait une réunion entière à parler de est-ce que le ton il est trop agressif ou pas, est-ce que on peut parler comme ça, est-ce que c'est pédagogique, est-ce que ça marche, est-ce que ça a un impact.
Ouais, non, et puis il y avait aussi ce, un truc de responsabilisation hyper forte là. Bah, si tu vas pas derrière les barricades, c'est parce que t'es pas assez forte, ou si tu te prends des trucs dans la gueule là, c'est juste que tu sais pas réagir, et d'individualisation comme ça là des situations d'oppression. Et
de dire que les barricades elles sont sexistes parce qu'il n'y a pas de nana, et que c'est pas parce qu'elles sont sexistes qu'il n'y a pas de nana. J'arrive jamais à faire ce genre de phrase.
Il y avait des gens, il y avait des nanas qui ont dit des genres de choses de... Ouais, bah, s'il y a le sexisme sur les barricades, c'est parce qu'il n'y a pas assez de nanas, et nous, on doit s'entraîner ensemble pour qu'on ne peut plus avoir peur, et pour qu'on peut être fortes ensemble. Et tu vois, les trucs comme ça, c'était pas... Comme c'était, les barricades étaient sexistes depuis le début, et en fait, c'était... Au début des expulsions, c'était assez réparti avec les gens de tous les gens. Après, c'était tellement... C'était insupportable. Il y avait tellement d'insultes sexistes, et du coup, tous les femmes, elles ont commencé de partir. Et les pédés aussi, et puis, ça a devenu une ambiance sexiste parce que la confrontation, ça se m'a passé. Quand tu essaies de parler avec les gens qui crient en coudée à la flic et ils sortent les trucs, bah, t'es un putain de cato moraliste et... et moi je suis anti-fasciste de nom, de toute façon je peux pas être homophobe.
Et du coup l'idée de ce texte là, c'était de, ouais, d'affirmer un peu qu'il y a des systèmes d'oppression là, et en fait qu'on est en lutte contre le système sexiste, hétérosexiste, que du coup on a besoin de s'organiser pour ça, et aussi le besoin de poser plus, définir plus la non-mixité là, une non-mixité meuf goon trans, sur la base voilà, d'expériences d'oppression vécues, et qu'en fait on avait la rage, qu'on avait pas envie qu'on nous dise de nous calmer là, qui ont été des réactions qui ont été hyper fortes à plein de moments, et qu'en fait on était dans une position ouais, de lutte contre ces situations, et qu'on avait pas envie du tout de se calmer. Bah, je sais pas, après j'ai eu l'impression qu'il y a eu plein de réactions diffuses là sur des affiches qui se font arracher, et puis plein de conversations à un moment donné là à la Châtaigne. Enfin voilà, ça devenait un peu un sujet de conversation là, de ah mon dieu, c'est horrible, on en a marre, on entend parler de antisexisme, de féminisme partout, alors qu'il y avait 2-3 émissions de radio qui étaient passées à Klaxon. Voilà, et c'était plutôt une ambiance là. De débats hyper absurdes, du genre non mais tu vois, je peux dire sale enculé, mais je peux aussi dire sale table branlante, et puis ben dans les deux cas bah la table tu vois c'est juste une insulte, alors on va pas commencer à défendre les tables. Et du coup voilà, enfin c'est c'est ce genre de réaction là un peu ouais un peu diffuse. Et puis en AG aussi, où il y avait un truc là de négation des... quand on posait les problèmes là. Il y a une AG où c'était une caricature par exemple, où il y avait des personnes qui essayaient de poser le problème là de ce qui s'était passé sur les chantiers. Et en fait il y avait une intervention qui faisait bah en fait le chantier c'était vraiment pénible, j'ai pas pu toucher un outil. Et puis intervention d'après, genre deux mecs, waouh c'était trop cool les chantiers. Enfin tu vois des trucs caricaturaux là, de négation comme ça.
Quand tu parles, ouais, une ambiance diffuse qui fait enfin pour moi qui me fait sentir qu'on essaie de crever un peu en abcès là, que en fait ça dérange et ça fait sentir que ça dérange, et du coup ça en cause quoi, mais c'est une tension un peu constante quoi. Peut-être on a tendance à voir plus les réactions négatives et tout ça, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a eu des trucs de... Bah je sais pas, de gens qui gueulent des insultes et puis des gens qui leur disent des trucs
Le mec il se reprend, il fait ah ouais et tout, et puis hop, il dit autre chose, il dit une insulte non sexiste ou non homophobe. Enfin, bon, après, faut pas trop focaliser sur ces trucs d'insultes ouais. barricades là, mais en tout cas, ça c'est des trucs flagrants, parce que c'est des trucs qui sont criés quoi, donc. Et après, voilà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a le sexisme ordinaire, un peu de base et tout, qui existe ici et qui forcément fait qu'il y a des réactions genre elles sont trop chiantes, elles sont trop reloues, quand il y a des féministes qui ouvrent leur bouche quoi. Mais il y a aussi, par contre, le truc que moi j'ai pas trop connu avant dans ma vie, là, d'antiféministes, je veux dire, qui argumentent politiquement leur choix, là, tout en reconnaissant qu'il y a du sexisme dans cette société. Mais vraiment sur ce truc, le sexisme, bah, c'est la femme, j'ai l'impression individuellement, qui a le choix de le faire exister ou pas. Et parce que tout à l'heure, on parlait de derrière les barricades, c'est aux femmes d'y aller, tout ça, de celles qui portaient ces discours-là. Bah, moi, dans un sens, je peux être d'accord, en fait, je peux être d'accord que pourquoi pas, c'est chouette, on s'entraîne ensemble, on s'en forte à y aller, en bande, hop, on va derrière les barricades, et puis on, je sais pas, on se fait un espace où on se sent bien parce qu'on est plusieurs et tout. Mais j'ai l'impression que c'est la seule réponse possible, hein, et que toute l'organisation en groupe non mixte qui discute et tout ça, eh ben, elle est hyper rejetée, et les rapports de sexisme, en fait, ils sont juste niés quand on le veut. Enfin, comme un discours que les nanas là en question, elles peuvent pas connaître le sexisme parce qu'elles ont choisi de pas le connaître, en fait.
Le groupe, il vous a aussi permis, je sais pas, de vous renforcer ou de découvrir, je sais pas, de nouvelles alliées, peut-être
Je vois un exemple, on a été rejoint par exemple par une femme qui fait partie d'un collectif de soutien, qui habite assez loin d'ici et qui a de l'intérêt pour ça, et tu vois que c'était plutôt des choses pas attendues quoi. Et puis quand même avec la régularité, enfin de pouvoir rien que d'amener cette question là publiquement quoi, que ça prend forme progressivement et que c'est nécessaire, mais que ça fait du bien aussi quoi.
Ouais, je sais pas, j'ai l'impression en tout cas pour moi qui vient d'arriver depuis pas très longtemps là, que ouais, que ça fait un peu un truc dans lequel je sais que j'ai des alliés, j'ai ma place, j'ai des, enfin, il y a des liens qui se construisent, et que du coup ça permet aussi de faire d'autres trucs, d'autres actions, d'autres types.
Moi j'ai l'impression que ça fait un angle de la rencontre qui est hyper particulier, que ce soit avant ou après les expulsions, de, je sais pas, d'avoir croisé des nanas depuis des mois ou des années là sur cette lutte, et sans forcément avoir créé plus d'affinités que ça, parce que je sais pas, on n'est pas dans le même réseau de potes ou voilà. Enfin, de se rencontrer sur ces bases-là et que ça fasse un truc assez, je sais pas, assez chambé là. Assez. Comme ah ouais, tu penses ça, ah ouais, on aurait qu'à être potes ou enfin, on aurait qu'à faire des trucs ensemble ou je sais pas quoi. Et ce truc de la copine qui vient d'un comité local là de, je sais pas, 80 bornes d'ici ou un truc comme ça, ben, je trouve ça fait un truc super chouette parce que. Ben, parce qu'en fait, on est juste dans notre espèce de réseau. Anarcho, squatter, je sais pas quoi. Enfin voilà. Et que là, du coup, c'est pas du tout le cas. Et j'ai l'impression que les questions de féminisme dans notre milieu, même si elles peuvent être dénigrées et je sais pas quoi, enfin quand même, elles existent. Ou c'est pas un truc qui sort de nulle part, quoi. Et cette copine, par exemple, ben, elle est dans un comité local où elle fait des réunions à 80, et puis il y a 70 mecs, et puis les nanas, elles prennent. Ben, en fait, ça s'est équilibré. C'était ça au début, mais je crois que ça s'est plus équilibré depuis. Mais n'empêche que la répartition de la parole et tout, c'est juste pas ça, quoi. Et qu'elle, elle essaye d'ouvrir sa gueule un peu là-dedans, toute seule. Et je pense que de participer à des groupes non mixtes, c'est des trucs qui permettent aussi de se sentir légitime à porter des paroles comme ça et de la renforcer, là, dans ce qu'elle essaye de faire, de chambouler un peu les habitudes de tous les vieux patriarches, là, de 60 ans et de machin. Et... Enfin, que ça va dans un contexte encore différent et que je trouve ça cool.
La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy me alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa, aunque lo olvide el tiempo pasa en general, y a veces pesa, contracturada, espalda tiesa, de tanta mochila espesa, un día cargada por sorpresa, recuerdo empezar, cómo se empieza, olvidé un beso nervioso bajo la cama o la mesa, descubrir el dolor como una musa, devenir montaña rusa del infierno a las estrellas, dibujar la primavera con mi mano entre las piernas, aún poder subir más alto escribiendo una escalera, recuerdo tomar mi rumbo, sonrojarme ante dos rombos, reírme con los colegas entre patadas y combos, convertir al papa en polvo, conocerme dando tumbos, descubrir en las palabras un refugio, una lumbre, una escapada, tantos mundos, todos los mundos. Dame palabras como balas, dame palabras, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras, que hoy me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como balas, dame palabras, que hoy me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Cabían 10.000 vidas en aquella habitación, dosis de poesía, cada día mi ración, pasión o distracción siempre a escondidas, un subidón de libertad que a duras penas compartía, el miedo a hablar de corazón era razón, pa' hacer de mi cajón el esbozo de su prisión, luego llegó la acción y en la emboscada encontré algunas hermanas, se cruzaron las miradas, inventamos el amor y la ansiedad y la pereza, cogimos fuerza en las piernas saltando muros y vallas, seguí el rap en mi cabeza, buen canal para la violencia, con paciencia me decía, apunte fuerte, arma te llama. No hay ciencia para entenderlo, cómo fluye la conciencia, rimando como quien reza, hacerse devota, confesa de esta guerra de miseria que nos puede en la carrera, esta guerra que nos duele pero nos mantiene alerta, y nos miran los señores de gris con sus carteras y comentan todos serios como gente que comenta que quisieran aún más celdas y más rejas pa' tanta fiera despierta en la era de la luna llena. A ratos dudo del camino escogido, tiempo perdido en el limbo de sin razón carcomido. El reloj gira furtivo, marca el ritmo pese al óxido. Esto ha dolido. Te miro, nos veo andar el camino. Hoy no haremos lo que es debido. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras como balas, dame palabras, que hoy me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus garras. Dame palabras como balas, dame palabras. Dame palabras como alas, dame palabras, que hoy me alargaré hasta el alba, que hoy me salvarán tus.
Vous êtes sur Dégenré, l'émission féministe pour déranger. On vient d'écouter Boca de Baba avec leur chanson Palabras como balas, des paroles comme des balles. C'est un groupe de hip-hop de Barcelone. Et le montage que l'on vient d'entendre a été monté avec Gloomy de Barbara Novak. Boca de Baba et Barbara Novak sont des groupes qu'on a entendus au festival de hip-hop de meufs qui a eu lieu à Saint-Étienne la semaine dernière et qui s'appelait le Femme 6 Fest. Ouais.
Et ben du coup, on va vous lire
une partie de l'appel aux réunions en non-mixité meuf-gwyn-trans qui a été faite à la ZAD.
Le choix de la non-mixité meuf-trans-gwyn. Tout comme nous considérons que dans un rapport de classe, les ouvriers et ouvrières ont intérêt à s'organiser sans leur patron, nous, meufs Gwyn Trans, choisissons la non-mixité comme outil politique d'organisation. C'est à nous qui avons fait l'expérience d'être perçues comme femmes, de définir nos oppressions, de constituer nos forces et de choisir nos modes d'action sans la présence des dominants. Nous voulons prendre en compte les constructions sociales genrées, les analyser et voir leurs implications sur nos vies. Si nous les nions, comment participer à leur abolition ?
Féministes et en colère ! Nous revendiquons le terme féministe comme position politique, même s'il renvoie à une multitude de pratiques et de discours différents. Pour nous, se dire féministe, c'est s'inscrire dans une histoire de lutte. C'est reconnaître qu'il existe des systèmes d'oppression à combattre à l'échelle de la société. C'est regarder des situations particulières comme étant générées et entretenues par ces systèmes d'oppression. C'est les analyser à travers cette grille de lecture. Par exemple, il est clair pour nous que dans une discussion sur les violences sexistes, l'histoire d'une meuf qui tape sur un gars n'a pas sa place. Que ce terme soit parfois et souvent jugé trop violent ou extrémiste nous importe peu. Nous ne nous étonnons pas qu'une lutte remettant en cause les privilèges de la moitié de la population et toute une organisation sociale soit sans cesse critiquée.
Alors ouais, on peut être violente, parce qu'on est vénère. On est vénère, parce que la violence, on se la bouffe dans la gueule depuis notre naissance. On est vénère que les formes de sociabilité hétérosexuelle conditionnent tout un tas d'interactions et que plein de meufs soient jugées en fonction de leur valeur sur le marché hétérosexuel. On est vénère de ces ambiances virilistes, de ces viols à répétition. Et le viol, c'est pas que ce truc spectaculaire de la ruelle sombre par un inconnu. C'est aussi une multitude de cas de non-respect du consentement. On est vénère des violences sexistes. On est vénère de voir toujours les mêmes situations dégueulasses se reproduire dans l'indifférence générale, voire le mépris de celles ceux qui tentent de les visibiliser ou de s'y opposer. On est vénère que ce soit toujours les opprimés qui se sentent mal. On est vénère et on n'a aucune raison de se calmer. Et tout comme se faire raisonner lorsqu'on lance de la caillasse sur les keufs augmente notre rage, les tentatives pour apaiser notre colère la décuplent.
Contre ce monde et son aéroport. Alors pour nous, s'opposer à ce projet d'aéroport n'est qu'un prétexte pour lutter contre toutes les formes de domination. Celle de l'État et des multinationales qui imposent leur projet d'aménagement n'en est qu'une parmi d'autres. Et nous n'acceptons pas qu'elle invisibilise les autres formes d'oppression, comme le validisme, le classisme, le racisme, l'homophobie, la transphobie, l'hétérosexisme et bien d'autres. Arrêter ce projet n'aurait rien d'une victoire si c'est pour y faire perdurer les rapports de domination. Organisons-nous. Et retrouvons-nous chaque lundi à 18h à la Maison Rose pour...
lutter, pour faire disparaître les ambiances et pratiques sexistes, inventer des outils pour renforcer nos capacités d'action et de réaction individuelle et collective, échanger des positions politiques et des ressentis autour d'une bonne bouffe, discuter de tout ce qui nous fait envie. Et ben voilà, du coup c'était pour vous donner une idée justement... des bases politiques de l'appel de ce collectif. Maintenant on va continuer du coup une deuxième partie d'enregistrement. Donc de l'interview de ce collectif non mixte Meuf Win Trans sur la ZAD. Et cette fois-ci, on va plus revenir directement sur cette semaine d'activité à la Châtaigne, donc, qui avait lieu du 27 février au 4 mars. Un peu déjà sur les d'où est née l'envie de cette semaine, et puis un peu au niveau de son contenu, des retours. Voilà, l'interview, elle a été faite juste à la fin de la semaine, donc c'est un peu des réactions à chaud. Au niveau du contenu, comme vous verrez, il y avait pas mal d'ateliers pratiques d'échange de savoir, des ateliers d'écriture. Aussi, c'était possible d'écouter des émissions de radio féministes qui avaient été emmenées à cette occasion-là. Il y a eu des projections de films, des débats sur pourquoi la non-mixité, pourquoi être féministe, la contrainte à l'hétérosexualité. Aussi, comment faire face à des situations chiantes sans avoir recours à la justice, des lectures de textes, etc. Donc, tout un programme qui était pas mal chargé. Et voilà, on va revenir maintenant du coup sur l'interview du collectif non mixte.
My girl's got pressure.
L'envie d'une semaine, là, la première fois où ça a été... formulé vraiment comme ça, c'était un peu un moment où il venait de se passer plusieurs réunions. Les réunions là, dont la deuxième s'est hyper mal passée, et que, je sais pas, on se disait, mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour à la fois se faire du bien là, que ce soit un moment hyper chouette, et en même temps que le rapport de force sur la ZAD, il change un peu quoi.
Moi j'ai l'impression que l'idée de la semaine non mixte, je me rappelle plus exactement comment, la première fois que le mot est apparu ou je sais pas quoi, mais en tout cas dans ma tête, j'ai l'impression que c'était assez motivé par des nanas qui sont venues en fait, que par exemple, certaines que je connaissais un peu, d'autres pas vraiment, et qu'on a accueillies à la maison ici par exemple, et qui sont allées faire un tour en centre ZAD et tout ça, et qui sont revenues. Alors que je les connaissais pas du tout et qu'on savait pas qu'on avait forcément des complicités féministes ou je sais pas quoi, que le premier truc qu'elles m'ont dit en revenant, c'est « Ah ouais, je voulais rester 15 jours, mais bon, finalement, je pense que je vais plutôt repartir avec les potes dans 3 jours, quoi. » Et sur ces trucs-là, en fait, d'avoir trouvé l'ambiance assez insupportable, là, de, je sais pas, la viriliste ou je sais pas quoi. Et que quand même, de vouloir s'intéresser à cette lutte et d'avoir envie d'y faire des trucs. Et du coup, je sais pas, comme un truc qu'on avait sûrement besoin, nous les zadistes, là, comme on dit, de visibiliser la lutte féministe ici, mais que aussi les copines féministes d'ailleurs, ou ouais, féministes, plus ou moins féministes aussi, mais en fait des copines qui quand même se sentent mal dans ces ambiances-là, et bah, elles puissent revenir sur un truc concret, en fait, sur un projet concret, que moi j'ai l'impression pour plein de gens, et je trouve ça plutôt normal, là, et bah, c'est pas facile de débarquer juste pour rien, comme ça. Et que du coup, moi, je trouvais vraiment un intérêt à ce que, ouais, à ce que des personnes puissent s'approprier à un moment la châtaigne, là, faire des trucs, et enfin des personnes qui sont extérieures à la ZAD aussi, et que je sais pas, pour faire changer un rapport de force féministe sur la ZAD, et bah, y a d'être plus nombreuses à habiter ici, mais il y a aussi toutes les alliées potentielles là qui peuvent venir de partout et qui ont besoin de s'y sentir bien, et que du coup voilà.
Bah ouais, que d'occuper la châtaigne, enfin de faire vivre ce lieu-là, qui est un lieu d'organisation, qui est le lieu d'organisation central de la ZAD et de la lutte contre l'aéroport, là, c'est pas rien aussi, quoi. C'est aussi, après l'enchaînement des comités locaux, faire exister des organisations de meufs queen trans. Enfin, c'est poser cette nécessité-là de que le féminisme il prenne une place conséquente, en fait, dans cette lutte, quoi, et qu'on puisse pas passer à côté ou je sais pas quoi, là, comme...
Des réactions à chaud sur la semaine, là, c'était une semaine hyper intense. Enfin, ça m'a fait un peu un truc de waouh, en fait, il y a des féministes de toute la France qui viennent, en fait, qui viennent sur la ZAD là pendant 10 jours. Et ouais, je sais pas, moi je trouve ça hyper enthousiasmant, en fait.
Bah, je sais pas, en tout cas, les discussions, pourquoi être féministe et puis pourquoi la non-mixité ou des trucs comme ça, enfin, moi j'étais assez contente qu'il y ait des gens qui ont envie de se taper ce boulot-là, là, d'aller expliquer, de reprendre les bases théoriques, ouais, et de faire de la pédagogie et tout, que moi j'ai l'impression que c'est des trucs que je trouve assez difficiles à faire et que j'ai un peu la flemme de faire ça dans ma vie, quoi. Bah, que peut-être c'est plus difficile, c'est encore plus difficile quand t'habites sur le lieu, en fait, que peut-être c'est plus facile d'aller le faire à l'extérieur. Et du coup, j'étais hyper contente qu'il y ait des gens de l'extérieur qui aient envie de faire ça, et ça, je trouvais que c'était quand même assez chouette que ça puisse exister. Et que je trouve qu'il y avait un bon boulot en plus de préparation et tout, c'était cool, quoi.
Et puis que ça a aussi un effet, moi j'ai l'impression que ça permet aussi de partager des arguments là et des trucs comme ça, si quand même à des moments où on le choisit, on est obligé de faire de la pédagogie ou des trucs comme ça, que ça permet aussi voilà, de se renforcer là les argumentaires et que ça c'était vraiment réussi. J'ai l'impression que même par exemple dans la construction du théâtre forum là, il y avait un truc de pouvoir aussi faire des jeux, faire des choses ensemble, que ça c'est une autre forme de truc pratique, même si on a beaucoup discuté, même si on s'est beaucoup pris la tête sur ce qu'on voulait faire et tout. Mais que je sais pas, là ça permet à la fois de resserrer les liens, d'avoir envie de faire plein d'autres trucs ensemble. Des ateliers soudure, des ateliers de forge, des ateliers lait.
Tu peux en dire plus juste sur le théâtre forum pour...
En fait, le principe du théâtre forum, là, c'est que on part de situations d'oppression qu'on a vécues. En fait, on les présente à des personnes, que le postulat, c'est un peu que ces situations, elles sont pas individuelles et propres à des individus en particulier qui seraient pas capables d'eux, mais c'est plutôt l'inverse, en fait, qu'il y a des situations qui sont vécues par plein de monde, là, et que c'est des situations qui sont produites dans des systèmes d'oppression et que ben, on a besoin de trouver des stratégies pour lutter contre ces trucs-là, et que du coup on présente ces scènes, et ensuite les personnes qui sont dans le public, mais tu vois, c'est un public, on dit des spectatrices et des spectateurs, du coup ces personnes, elles peuvent intervenir pour essayer des stratégies. C'est un peu comme une plateforme d'entraînement, là, et que voilà, qu'au début on se disait on a envie de travailler sur quoi, sur quelle situation d'oppression, et que finalement on a pris des situations d'oppression surtout pour travailler sur les oppressions sexistes, et qu'en fait bah ça a assez bien fonctionné. Quand on l'a présenté là, bah j'ai l'impression qu'il y avait plein de gens à qui ça parlait et qui avaient envie d'essayer de trouver des stratégies et que ouais, on a essayé plein de trucs, que ça a donné des idées.
Mais enfin, moi c'est ce que j'ai trouvé hyper fort et qui me plaît vachement dans le théâtre forum, c'est finalement plein de fois dans ta vie, là, quand tu te retrouves face à une situation de merde dans laquelle t'es plutôt en échec, quoi, une situation d'oppression où bah, ouais, t'as pas trouvé moyen d'y faire face. Ou... Et tu, en fait, a posteriori, tu sais ce qu'a merdé et tout ça, mais bon, bah, c'est passé maintenant, t'as plus vraiment prise dessus, quoi. Et donc, il y a un truc de se dire, bah ouais, alors la prochaine fois, qu'est-ce que ça va donner, enfin, tu vois. Et là, d'avoir une scène et que tu la creuses et tu peux monter sur scène et tester un peu des trucs et finalement te dire, bon, bah si ça n'a pas marché, je peux y retourner. Et, enfin, tu sais, malaxer le truc là et que, ouais, et que ça a pas de conséquences sur ta vie directe, en tout cas, enfin... Enfin, ça en a plein, des trucs très positifs, quoi, mais je veux dire, si tu prends pas des risques, pareil, quoi.
On a continué à jouer à ça, après le théâtre forum, moi et d'autres nanas que j'habite avec. Et hier, on est allé sur un chantier, c'était que les mecs qui construisaient, et il y avait une femme qui cuisinait. Et tu vois, on se regardait, et puis on a... commencer de parler de construction avec les mecs et ça s'est mal passé et puis après on a discuté ensemble de qu'est-ce qu'on pouvait changer et vraiment j'ai trouvé ça super le théâtre forum.
Même je trouve que ça donne des outils de ouf là pour analyser tout ce qui se passe en fait dans la vie quoi. Enfin je sais que depuis là j'ai vécu une situation, je sais plus ce que c'était mais tu sais j'ai l'impression que avant là j'aurais vécu ça comme il y a un truc qui me gêne là. Puis que là, de savoir en fait ce qui me gênait,
ouais.
Mais que j'ai l'impression que la réflexion, elle n'est pas encore allée assez loin pour savoir comment réagir cash là, de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, ou tu sais. Et que c'est un travail sur du long terme, mais je trouve ça hyper bien déjà d'avoir franchi l'étape de savoir ce qui te gêne, à quel moment et pourquoi.
Et qu'il y a plein de moments là où on a envie...
D'assumer le conflit, quoi, ouais. Le rapport de force, quoi.
Et puis qu'après, il y a des situations dans lesquelles tu vois des trucs et en fait, t'as envie de faire... Stop là, on arrête la scène, vas-y, je vais venir la changer là. Et en fait, je trouve ça cool là, de plein de trucs qui se passent, qui ont l'air un peu banal comme ça. En fait, c'est pas banal en fait, et ça permet de se dire en fait, non, là, c'est pas un truc qui serait de l'ordre d'un normal ou je sais pas trop quoi. Évident, en fait, ça peut être changé en fait. Et en fait, on peut le changer nous, quoi. Et ça, c'est vraiment...
One trip, we can make a mistake, pressure. One trip, we can make a mistake, hail. One trip, we can make a mistake, pressure. Pressure, pressure.
Moi, l'atelier auto-examen, là, ça m'a assez ébranlé, là, dans le sens où... Ouais, ça fait exister vraiment cette phrase-là, que l'intime est politique, là, ou que même des choses très intimes sont politiques, quoi, et ouais, j'ai vachement apprécié ce moment-là, quoi. Aussi parce que c'était un moment en groupe plus restreint et qu'on a pris le temps de parler et que c'était un rythme assez lent, là. Et assez drôle aussi. Enfin, c'était un moment assez drôle.
Enfin, moi, pour être allée, par exemple, à l'atelier découpe de bois tronçonneuse, quoi, il y avait vraiment cette espèce d'enthousiasme là, de, je trouve, le truc de la transmission en non-mixité. Je sais pas, de techniques, d'outils là que bah, t'arrives pas, enfin que c'est trop chiant de faire avec des gars et qu'en fait là on était plein quoi, à se passer la tronçonneuse, tout ça avec un truc hyper chouette.
Moi j'ai fait la télégrampe et juste, oh, c'était vraiment super, j'avais pas du tout envie d'y aller et. En fait, c'était trop bien parce que quand tu fais des ateliers comme ça et ils sont mixtes, il y a toujours, dans mon expérience, il y a toujours des mecs qui sont redoux, qui sait tout faire, qui n'ont pas peur, et ça, ils transmettent l'ambiance aux autres. Et du coup, dans les ateliers mixtes, les meufs, ils ont moins de confiance en eux. Il y en a plus qui regardent et qui ne font pas. Il y en a plus qui regardent et disent bah, « ça c'est pas pour moi, ça fait pas trop peur, moi je suis pas assez forte ». Et là, je pense, pas dans l'atelier que moi j'ai fait, il y a toutes les meufs qui sont campées. Et je pense que tout le monde était assez content. Et c'était vraiment super. Et se soutenir entre eux. Et quand ils sont mecs, souvent, ils te montrent en eux et disent oui, bah, c'est comme ça. Et il n'y a pas tellement d'échanges et d'être sûr que tout le monde est confortable et prêt à monter.
Par exemple, j'ai l'impression qu'un truc comme l'atelier LEC, là, c'était hyper enthousiasmant de... qui est, je sais pas, là, une transmission hyper chouette de... Moi, j'avais jamais fait des LEC de ma vie et de comprendre plein de trucs, là, et de faire... je sais pas, de faire des choses ensemble, de faire attention que chaque personne ait bien des tâches, de... Voilà, que les gens se réexpliquaient entre elles, là, sans qu'il y ait, je sais pas, des mecs qui t'expliquent ce que tu disais un peu, là, qui ont l'impression de tout savoir et qui, du coup, genre, soit font à ta place, soit juste...
Ils posent un truc de compétition, quoi.
Ouais. Ouais. Et du coup, ça, c'était vraiment hyper, hyper chouette, quoi, et que ça donne... Et je trouve que ça donne vachement confiance, en fait, de se dire, je sais pas, là, on est hyper capable de faire ces trucs-là, là, et qu'en fait, c'est même beaucoup plus chouette, en fait, et moi, je trouve ça même politiquement hyper, hyper fort, en fait, de faire attention aux manières dont on transmet, aux places des gens sur les chantiers et tout, et qu'il y a un truc de... On est capable de faire, et en même temps, en plus, je trouve qu'il y a un truc de... En fait, politiquement, c'est super fort, là.
Ah, globalement, je sais pas, je trouve ça ouvre des perspectives et des envies, là, de... Je sais pas, qu'on n'avait pas trop l'occasion de se poser la question avant la semaine non-mix, parce qu'on était hyper prise par l'organisation et toutes les réunions tournées autour de ça et tout. Mais que maintenant, j'ai l'impression qu'on peut... Voilà, que du coup, on peut se poser des questions maintenant de quoi on a envie, et puis hop, faire un atelier de ça, ou faire... aller, tu sais, même se balader ensemble sur la ZAD, qu'en fait, on est plein à être complètement... je sais pas, là, à pas avoir l'envie, en fait, d'aller dans plein d'endroits où, enfin, ça fait une démarche quand même qu'il faut y aller, et que du coup, je me dis aussi, on pourrait aller se balader ou discuter avec des gens, et... Enfin, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir, je sais pas, l'envie de faire des trucs, quoi.
Et puis aussi, moi, j'ai l'impression de, je sais pas, là, de continuer à construire un peu le groupe, parce que du coup, c'est pas un groupe qui est uniforme, et que voilà, il y a aussi des rapports à l'intérieur du groupe là, et des rapports sociaux aussi à l'intérieur du groupe, et ouais, je sais pas, de continuer là à construire ce truc là à partir d'envies qu'on aurait et à partir de choses à faire ensemble, et je trouve que c'est aussi hyper enthousiasmant là.
C'est un peu comme si on était rentré dans le vif du sujet, quoi, et puis que ça lançait un peu les choses.
Ouais.
Avec plus d'enthousiasme que les difficultés assez fortes auxquelles on a eu à se confronter, quoi, et auxquelles on va se confronter encore mieux.
Et il y a les projets de la construction d'un sleeping no mix, et ça c'est super, et aussi pour faire des réunions, et ça fait trop longtemps qu'on a besoin d'un sleeping no mix.
Ouais. Ça me donne envie de continuer à, je sais pas, avec le groupe sur la ZAD, il existe, et puis je sais pas, de faire des alliances avec des féministes dans toutes les villes, là j'ai l'impression que c'est en train de prendre forme un peu en ce moment là, à force que plein de personnes fassent des allers-retours à droite à gauche, les réseaux ils commencent à quand même se resserrer et et du coup je sais pas, on va bien se marrer, quoi.
Pour les mettre tous à terre, SOS écrit les militaires. Enfile tes six chères chaussettes sèches. Allez, viens, on va leur mettre la misère. Et je cours, je me vois dans les orties, un peu gêné par le bruit des grenades qui m'entourent. Je me relève dans les gaz CS et je tire avec adresse mes fusées maîtresses. Tous les flics, les CRS partent dans les airs et se mangent de la caillasse qui leur éclate la tête en beauté.
êtes toujours sur Dégenrer, l'émission féministe pour déranger.
Et du coup, on vient d'écouter Boucherie Carnage, qui au passage est un bon détournement d'une chanson d'un crevard de masculiniste dont on ne dira pas le nom, parce qu'on voudrait quand même pas lui faire de la pub. Du coup, un peu avec ce retour là sur la semaine d'activité non mixte, ça repose aussi, je trouve, la pertinence de la non-mixité, ou je dirais plutôt des non-mixités, et aussi le fait que qu'on lutte justement contre des rapports de domination, c'est aux personnes en fait cibles de cette oppression à décider elles-mêmes de comment on veut se retrouver, des moyens de nos luttes, de nos choix, etc. Et que c'est assez dommage et assez fatigant qu'on doive constamment en fait se justifier là-dessus. Et par exemple, suite à cette semaine organisée, il y a encore eu en fait des attaques assez, qui sont un peu toujours les mêmes par rapport à ce choix de la non-mixité. Et cette situation en fait, ça parle de la lutte sur la ZAD contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est quelque chose qu'on pourrait plus globaliser, parce que la question de l'antiféminisme, c'est quelque chose qu'on peut avoir à faire dans des milieux militants et sur des luttes super diverses. Et j'ai l'impression, là aussi, ce qui se pose, c'est sur un certain discours antiféministe, un peu plus, on va dire, intellectualisé, et en fait qu'un discours super libéral qui, en même temps, dit « Ah oui, on reconnaît, il y a des oppressions sexistes », mais en gros, comme si, en fait, les femmes ou les gwyn, les trans, les PD étaient aussi responsables, par exemple, de l'oppression sexiste ou homo, lesbo, transphobe qu'ils subissent. Et... je disais un discours super libéral parce qu'à un moment, c'est comme si... on n'a qu'à remettre en cause les identités, les catégories sociales hommes-femmes. Donc, paf, elles n'existent plus, quoi. Et en fait, qui, du coup, nie complètement une réalité, c'est que dans des rapports d'oppression, il y a aussi des catégories sociales, du coup, des personnes qui se retrouvent dans des situations de dominants et qui ont des privilèges, en fait, qui vont avec. Et que cette notion justement de privilège, tu peux pas juste l'abolir d'un coup de baguette magique et puis décider de qui tu serais alors que c'est pas une réalité sociale que tu vis, quoi. Et que nous, bien évidemment, en fait, en tant que féministes, par exemple ces catégories hommes-femmes, c'est complètement justement des choses qu'on remet en cause et qu'elles sont absolument pas naturelles ou immuables, quoi. Mais qu'en même temps, socialement, c'est important de reconnaître leur existence à un niveau rapport d'oppression pour pouvoir lutter contre, se renforcer, etc. Quoi.
Une des accusations qu'on a subir beaucoup de féministes, notamment dans une lutte comme celle contre l'aéroport, c'est celle de diviser la lutte.
Ouais, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Ou à partir du moment, en fait, on place aussi qu'il y a justement des rapports d'oppression et qu'en fait, qu'on ne lutte pas en fait, juste contre un ennemi extérieur. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus facile de lutter juste contre... c'est beaucoup plus facile. En fait, l'ennemi commun, là, l'État, Vinci...
les flics...
Les keufs, le capitalisme, ça fait une union contre un ennemi extérieur, mais qu'il n'empêche que si on ne réfléchit pas aussi aux rapports qui, du coup, est aussi des rapports d'oppression, des questions de privilèges, en fait, qui existent entre nous à l'intérieur des luttes, ça fait que, de fait, en fait, on exclut des personnes de ces luttes-là. Et du coup, c'est ça qui est quand même vraiment super abusé sur l'accusation de diviser. C'est que justement, si on veut être en fait plus nombreux, nombreuses et plus unis dans des luttes, on a plutôt tout intérêt à réfléchir à c'est quoi les rapports entre nous et comment on fait que les personnes elles se sentent à l'aise là-dedans, c'est quoi la place qu'on leur laisse, en quoi en fait on peut se sentir genre nous-mêmes insultés, attaqués, agressés sur des trucs, et qu'à un moment en fait on va pas juste être toujours gentil, souriante et pédagogique, parce que bah en fait je trouve, comme ça le disait très bien dans le texte aussi qu'on a lu tout à l'heure, à un moment on est vénère et qu'on entend des remarques voilà par exemple sur des barricades comme au keuf, comme ta femme, je vais la violer, et autres, hein, parce que ça, il y en a eu des tonnes. L'ennemi, il n'est pas juste à l'extérieur, quoi. Donc voilà, on trouve aussi que bah, toute cette émission et ces débats-là, ça remettait aussi cette question-là à l'intérieur de nos propres luttes. Alors notre émission, elle arrive à sa fin. Du coup, là, on voulait revenir aussi un peu sur quelques infos sur la situation actuelle.
Alors, la châtaigne... expulsion immédiate possible et 450 euros par jour d'astreinte. Bellevue, expulsion immédiate, 50 euros par personne et par jour.
Ouais, ça ne veut pas dire en fait que du coup là il n'y a pas eu dernièrement d'expulsion qui ont eu lieu. Ça, c'est les rendus de justice. Et du coup, bah, à nouveau, il y a des appels à des actions au moment des expulsions, mais aussi en fait dès maintenant. Sachant que là, du coup, aujourd'hui, on enregistre l'émission, donc mardi 9, c'était le rendu de la soi-disant commission du dialogue qui a été mis en place du coup par le gouvernement pour essayer, soi-disant, de faire croire à une sorte de débat démocratique et d'apaiser les choses, sachant qu'on pourrait autant l'appeler commission du monologue, étant donné que cette commission, dès le départ, elle a dit qu'elle ne remettrait pas en cause la construction de l'aéroport. Donc voilà, dans tous les cas, la lutte, elle continue sur place et puis aussi ailleurs, vu qu'il y a plein de comités locaux dans plein de villes aussi qui se mobilisent là-dessus.
Samedi 13 avril, une grande manifestation, la manif SEMTAZAD, outils en main, en direction de différents chantiers agricoles, mais aussi un rendez-vous à Grenoble par le comité de soutien grenoblois, une AG tous les mardis à 19h à Antigone si vous voulez rejoindre le comité de soutien grenoblois.
Donc Antigone, c'est 22 rue des Violettes.
Et vous pouvez avoir toutes les infos sur la ZAD sur le site zad.nadir.org.
Pour savoir un peu plus ce qui se passe sur Grenoble, le mieux c'est d'aller voir sur Indie Media Grenoble, où vous aurez du coup les différents rendez-vous. Par exemple, samedi dernier, il y a eu une manifestation du coup à Grenoble devant le chantier de construction d'un hôtel 4 étoiles. Du coup, dans les jardins de la caserne de Beaune. Alors, la mairie, elle a bradé, du coup, un bout du jardin Hoche. Et devinez à qui elle l'a bradé ?
À Vinci.
Comme c'est original.
Et pour faire le lien avec d'autres grands projets inutiles, on peut parler du TGV Lyon-Turin, bien sûr, du téléphérique Fontaine-Lançon-Vercors, du projet de Center Park dans les Champs-Barrans, mais aussi le projet de l'autoroute qui a été relancé par Valigny, l'autoroute A51 qui ferait le lien entre Grenoble et Sisteron.
Ouais, c'est vraiment aussi quelque chose que ça a permis, en fait, cette lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi faire des liens entre d'autres luttes actuelles sur tous ces projets capitalistes, inutiles, dont on veut pas, et sur lesquels il y a de la mobilisation, mais qui, en même temps, en fait, en général, on entend peu parler de la mobilisation. C'est aussi super, du coup... étouffé, mais c'est tout aussi des luttes sur lesquelles vous pouvez trouver plus d'infos sur Indie Media Grenoble. Aussi, comme vous avez pu l'entendre dans les interviews, suite à la semaine sur la châtaigne, il y a eu un projet de chantier de construction d'une cabane non mixte. Donc ça va se faire du 20 mai au 3 juin.
Et ce sera un chantier en non-mixité Meuf Gwyn Trans.
Voilà. Et du coup, ça fait aussi une bonne occasion, justement, de pouvoir se rendre là-bas avec un projet concret et super chouette à se faire. Et ça, il y aura aussi des infos plus précises qui seront trouvables sur le site de la ZAD.
Bah voilà, on peut aussi, pour les infos, vous parler du prochain concert organisé par Dali Dark, qui est un collectif d'organisation d'événements en non-mixité, Meuf Gouin. Et le prochain concert aura lieu le vendredi 19 avril, avec comme groupe Gayton, Slux et Amanda Blake.
Sinon... Et bien toujours tous les lundis à la BAF, vous pouvez venir à la bibliothèque féministe. Donc c'est de 16h à 20h. C'est mixte, donc ouvert à toutes et tous le premier lundi du mois. C'est en non-mixité Meuf Gouin Trans les trois autres lundis. Et puis c'est l'occasion de pouvoir... emprunter des bouquins, lire des BD, discuter autour d'un thé. Et c'est aussi là qu'ont lieu les écoutes collectives de l'émission Dégenrée. Donc comme par exemple ce lundi. Du coup, on arrive à sa fin. La prochaine émission, ça sera l'enregistrement d'une conférence de Christine Delphi sur les luttes antiracistes et contre l'islamophobie. Et on va vous quitter avec un morceau qui reste dans le sujet.
C'est un morceau des Revengers qui s'appelle Mazurka et qui parle entre autres de la lutte contre l'autoroute
A51 et sur la destruction entre autres des montagnes. J'ai tout...